c'est l'heure du JT.
Il est pratiquement 19h, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour passer ce week-end dans votre compagnie.
Putain,
ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation de la part du
gouvernement ? Offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini,
ce maillot, connerie, cette fois si c'est sûr, je l'éteins là, je l'éteins la télé, même je l'éteins à tout jamais, tu vas voir ce qu'elle va voir, c'est qui ?
Oh, René ! Tous les vendredis, c'est pareil, une télé explosée, hein ? La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
Bonsoir, bonsoir. Vous êtes sur le Canu Info du vendredi, il est 19h02 et ce soir on va vous parler de plein de choses. On va commencer par vous passer un reportage sur les écoles occupées à Lyon.
On reviendra ensuite sur la répression qui frappe 6 militants et militantes antifascistes lyonnaises et lyonnaises.
Et répression encore et toujours, on vous parlera de Bure puisque Libération a sorti cette semaine un gros article sur la question.
Et répression d'aujourd'hui, répression de demain, on vous parlera de l'assignation à résidence qui se fera sûrement sans le passage des juges devant les juges prochainement.
Et ensuite, on vous parlera de Marseille et du mur de la honte sur le quartier de la Plaine.
Puis au niveau international, on ira du côté de la Libye pour vous parler de la résistance désespérée des migrants et des migrantes.
Et ensuite, en Europe, on va vous parler de comment 1000 km de murs ont été érigés contre la libre circulation des personnes.
Et on finira comme d'habitude par l'agenda et même peut-être par un nouvel ACAB.
Bonne écoute sur Radio Canu.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus
smart. La volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Les yeux, la précarité n'est pas minimale à Lyon. Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous les bougez en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes. En chantant résiste.
Bien alors, bonsoir. Du coup, toi, tu fais partie d'une école dans la métropole lyonnaise qui a été occupée cette semaine dernière par les parents d'élèves, par les instituts. Institutrice et par du coup parce qu'il y avait des familles de cette école qui étaient à la rue, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. Donc moi je suis enseignante et membre du collectif de l'école qui s'est organisé justement pour soutenir une famille qui était sans solution de logement et qui a vécu 3 nuits à la rue. Avant le retour des vacances de la Toussaint et pour lesquelles il a fallu qu'on trouve des solutions d'urgence.
Et du coup, comment vous avez appris déjà en fait que ces familles étaient à la rue ?
La famille est venue nous rencontrer le jour de la rentrée. La maman était dans un état d'épuisement, les enfants nous en ont parlé en classe et très vite la maman est venue en parler aux deux directrices du groupe scolaire.
Et du coup, c'était des familles qui avaient fait a priori des demandes d'hébergement. Enfin, c'est une famille qui avait fait des demandes d'hébergement, qui était enregistrée au 115. Voilà,
Oui, c'est une famille qui est en situation régulière, qui a fait depuis un an et demi toutes les démarches auprès des services sociaux pour obtenir un logement social. Et on arrive à un an et demi, il faut renouveler les demandes, puisqu'aucune n'a abouti. Donc évidemment, on a d'abord essayé tout ce qui était dans la voie légale. Donc on a contacté tous les services sociaux de la métropole et de l'éducation nationale. On a contacté le 115 qui malheureusement est saturé et nous a expliqué qu'il ne prenait plus en charge de famille. Ils sont en capacité de prendre uniquement des personnes isolées et pour les familles, en fait, il y a un système d'inscription d'un dispositif qu'il faut le renouveler tous les 15 jours puisque du coup, elles sont choisies par une commission.
Et du coup, vous ayant connaissance de ça, vous avez du coup commencé par essayer de trouver des solutions un peu de fortune avant d'occuper l'école ou...
Oui, nous, l'objectif, c'était pas du tout d'occuper les locaux ou de faire des choses, des actions illégales. L'objectif, il n'était pas du tout revendicatif, mais vraiment de venir en aide à une maman et ses enfants qui dormaient dehors. Donc on a d'abord cherché tout ce qui était possible de faire. La mairie a financé d'abord une nuit d'hôtel. Et puis ensuite, très vite, donc c'est monté le collectif d'enseignants et de parents qui étaient indignés par la situation et des parents qui nous disaient qu'ils étaient très touchés par la situation parce que ils avaient bien conscience que ça pouvait arriver à tout le monde. Et très vite, on a collecté suffisamment d'argent pour pouvoir financer une semaine d'hôtel à la famille, donc ce qu'on a fait. Mmh. Et puis, au bout d'une semaine d'hôtel, on n'avait toujours aucune solution. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'héberger cette famille au sein de l'école. À la fois pour leur trouver un toit, mais aussi pour essayer de faire bouger les lignes. Parce qu'on se rendait bien compte que la solidarité, la générosité des personnes du quartier nous avait permis de trouver une solution, mais que du coup, on n'était plus dans l'urgence pour... on n'avait pas l'impression d'être dans l'urgence pour les services compétents. Mmh.
Et du coup, vous vous êtes dit que d'occuper l'école, ça créerait un port de force plutôt du côté des services sociaux, quoi.
Des services sociaux et on s'est dit qu'on aurait l'aide de la municipalité puisque ce sont eux qui sont propriétaires des locaux.
Ouais.
Et que normalement ils ne peuvent pas nous laisser occuper ces locaux comme ça indéfiniment. Donc on s'est dit que forcément si on occupait les locaux, on allait voir arriver au moins des élus, des personnes qui connaîtraient peut-être un petit peu mieux le système que nous, qui sommes simplement des enseignants et des parents.
Et du coup, concrètement, ça se passait comment, cette occupation, le soir, toute la journée?
Alors, on avait prévenu, dès vendredi dernier, on avait prévenu tout le monde qu'à partir de lundi, enfin tout le monde, donc les élus et notre hiérarchie, qu'à partir du lundi, si on n'avait toujours pas de solution, on occuperait l'école. Mmh. Donc, le soir, donc on avait tout planifié, on avait fait un roulement des enseignants, avec la directrice qui était là tout le temps puisqu'elle est responsable des locaux. Et donc tous les soirs il y avait après l'école des enseignants qui restaient pour rester avec cette famille, pour continuer à l'aider dans toutes les démarches. Et puis ensuite on partageait un repas que les enseignants qui restaient là et la famille partageait un repas que à chaque fois que d'autres familles de l'école nous apportaient. Et puis ensuite, on s'organisait pour la nuit où la famille, on l'avait mise dans un coin de l'école un petit peu isolée pour qu'elle soit un petit peu tranquille. Et puis la directrice et trois autres enseignants, à chaque fois, dormaient dans une classe.
Et du coup, le lien avec les autres parents d'élèves et tout s'est fait de façon complètement, enfin, sans souci, quoi.
Il s'est fait de façon très spontanée. Dès que l'équipe enseignante a été mise au courant de la situation, on a alerté la présidente de l'association des parents d'élèves, qui chez nous ne sont pas rattachés à la FCPE, il n'y a aucune autre organisation de parents. Et le jour même, il y a eu tout un élan de solidarité où les parents ont décidé d'organiser une collecte d'argent pour pouvoir aider la famille, pour pouvoir l'héberger à l'hôtel, et aussi de nourriture et d'éléments d'hygiène pour leur permettre tout simplement de se nourrir à l'hôtel. Et on a récolté vraiment beaucoup de choses et surtout on a été épatés par la générosité de toutes ces familles, alors qu'on est dans un quartier très populaire. Et les familles n'ont pas donné des petites sommes, elles ont vraiment fait un sacrifice financier pour pouvoir aider cette famille. Tout le monde a participé, les familles, les enseignants, mais aussi les personnels municipaux qui travaillent dans l'école et qui ont été très touchés par la situation. Il faut savoir qu'au début de la collecte, les parents ne savaient pas de quelle famille il s'agissait. Mmh. Et ils ont quand même donné énormément.
Et est-ce que vous vous êtes mis en lien du coup avec les autres collectifs des écoles occupées, justement, de Jamais Sans Toi?
Alors dès le début, on a signalé la situation au collectif Jamais Sans Toi, qui nous a indiqué un peu les démarches à suivre, notamment comment signaler cette famille, comment s'assurer que cette famille était bien signalée à la préfecture. Comment on pouvait organiser des rassemblements avec les parents, tout ça.
Et du coup, du côté au contraire de votre hiérarchie, la chose est tant de votre hiérarchie que de la part de la mairie, là, ça s'est bien passé ou il y a eu des pressions un peu importantes?
Alors il y a eu des pressions au départ pour éviter l'occupation de l'école. Il a été rappelé et par la mairie et par la hiérarchie que c'était illégal, qu'on n'était pas propriétaire des locaux, qu'on ne pouvait pas en disposer comme on voulait. Mais au final, on nous a laissé faire et notre hiérarchie s'informait tous les jours de la situation. Par contre, au niveau des élus de la mairie, on a été très étonnés de n'en rencontrer aucun de toute la semaine. Et de n'avoir même aucun contact par téléphone ou par mail, à part ceux que l'on a sollicités nous-mêmes, quoi. Okay.
Et du coup, là, jusque-là, c'est là ce soir, du coup, la famille ne va pas redormir à l'école parce qu'elle a trouvé une solution.
Depuis hier soir, on n'occupe plus l'école parce qu'il a été proposé une situation d'hébergement d'urgence. Ouais. Donc nous, on s'était engagé auprès des services de la métropole et de la mairie, évidemment, à arrêter cette action à partir du moment où on avait une solution un peu pérenne. Sauf que cette situation, cette solution n'est pas satisfaisante, puisqu'il s'agit d'une proposition d'hébergement dans le Beaujolais, ce qui est très très loin de l'école où on est. Et qui pose des gros problèmes pour la famille qui est en train de faire toutes les démarches de logement, mais aussi qui a des démarches de titre de séjour à renouveler donc auprès de la préfecture de Lyon. Et puis il y a un adolescent de 16 ans dans cette famille qui est scolarisé dans un lycée lyonnais, un lycée professionnel. Et on sait très bien que s'il va à l'autre bout du département, il ne pourra plus être scolarisé dans ce lycée. Et du coup, c'est un jeune qui va se retrouver en situation de déscolarisation.
Et donc du coup, là, vous, pour la suite, vous avez décidé de vous contenter du coup de cette situation, de cette solution d'hébergement un peu bancale, ou...
On a bien conscience que dans l'intérêt de la famille, on ne peut pas vraiment refuser. Et puis que nous, on ne peut pas continuer à occuper l'école éternellement. Par contre, on réfléchit à d'autres actions pour faire comprendre que c'est une situation vraiment d'urgence pour trouver un vrai logement social, et notamment dans l'intérêt du jeune de 16 ans. C'est pas possible pour nous qu'un enfant renonce à sa scolarité parce qu'il ne peut pas avoir de toit. Et donc, le collectif de parents et d'enseignants a décidé de continuer à mener des actions, notamment aller rencontrer les élus à la mairie, pour pouvoir vraiment expliquer les conséquences de cette solution et ben essayer de débloquer tout ça au plus vite, parce que on a aussi bien conscience que autour de nous il y a plein de logements qui sont inoccupés et à côté de ça ben, il y a des gens qui dorment à la rue ou qu'on envoie à l'autre bout du département dans des foyers pour essayer de trouver une solution temporaire. Sauf qu'on a bien conscience aussi que cette solution en foyer risque de durer, puisqu'on nous a quand même bien précisé que la demande de logement social n'était pas encore prête à aboutir.
Oui. Et bien alors, on vous souhaite bien du courage pour continuer à suivre ça, puis on vous dit bravo du coup pour cette, en tout cas cette réussite, même si là, elle n'est pas complète, et puis ben, on reste informé pour une autre... pour la suite et comment on peut continuer à vous soutenir alors.
Et donc ça c'est un exemple seul parmi tant d'autres de familles qui se retrouvent à la rue, de personnes tout court qui se retrouvent à la rue. Donc par exemple Jamais Sans Toi a recensé 300 familles qui habitent à la rue avec des enfants scolarisés et sur les chiffres du 115 du coup il y a 2500 personnes à ce moment qui n'ont pas de solution d'hébergement, et donc ça c'est que les personnes qui appellent le 115. On imagine qu'il y en a bien plus qui n'appellent pas le 115 parce que c'est trop chiant, parce qu'il faut trop attendre ou parce que de toute façon il n'y a pas de solution, donc pourquoi on se ferait chier à appeler un truc où il n'y a pas de solution, et ils et elles ont bien raison. Du coup la réponse, j'en ai parlé la semaine dernière à toutes ces personnes à la rue, c'est le plan froid. J'en ai parlé, du coup c'est de la merde, il n'y a pas du tout suffisamment de place, tout n'est pas encore ouvert. Là à l'heure d'aujourd'hui il y a 150 places qui sont ouvertes, mais surtout ce qu'on a appris c'est qu'en fait toutes les solutions d'hébergement sont, comme pour cette famille là dont on vient de parler dans cette interview téléphonique, des solutions en fait très 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 éloignées de Lyon. Quand je dis très 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 éloignées, c'est-à-dire hors de la métropole, même hors du département, et où du coup bah, c'est dans des endroits où si on n'a pas de voiture, si on n'a pas de moyen de transport, c'est impossible de continuer à faire ses démarches, voire impossible du coup bah, comme dans ce reportage de continuer sa scolarité, et c'est impossible même du coup bah, de bénéficier de la solidarité qu'on pouvait bénéficier quand on était dans un endroit où on connaissait les gens, et du coup l'idée c'est ça en fait, c'est de sortir la misère, de sortir la précarité des villes, de les cacher dans un endroit et que les gens se retrouvent complètement isolés et ne puissent pas bénéficier à la fois des petites solidarités mais aussi des espaces de lutte qu'ils avaient. Et donc face à ça, il y a un rassemblement mardi 20 novembre, mardi qui vient du coup à 18h au quai aux Gagneurs. C'est le quai qui est juste devant la préfecture, et ce rassemblement il est organisé par Jamais Sans Toi, et du coup Jamais Sans Toi demande que le préfet réponde à leur demande et héberge l'ensemble des familles qui sont à la rue, que la métropole ou le département assure la prise en charge de tous les jeunes étrangers isolés et les jeunes étrangères isolés aussi, qu'une aide soit attribuée aux jeunes majeurs et que cessent les OQTF, les poursuites judiciaires, et que tous les jeunes majeurs soient régularisés et que la scolarité soit effective pour toutes et tous. Donc ça se passe au quai aux Gagneurs mardi 20 novembre à 18h.
Et la ville de Lyon n'aime pas les gens à la rue, et elle n'aime pas non plus les antifascistes, parce que du coup une grande opération de répression du mouvement a eu lieu cette semaine. En fait c'était mardi 13 novembre, mardi dernier, à 6h du matin, où 6 militants et militantes antifascistes de Lyon et des alentours ont vu leur porte défoncée par des policiers cagoulés. Il s'agit bien d'une opération de police simultanée sur plusieurs départements, avec béliers et armes automatiques comme dans les films. Ils et elles ont tous et toutes été placés en garde à vue, accusés d'avoir muré le local fasciste Bastion Social, qui a été fermé depuis par la mairie, dans la nuit du 10 avril dernier. Les personnes arrêtées ont toutes nié les faits. Elles sont poursuivies pour dégradation en réunion par personne dissimulant tout ou partie de leur visage, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et association de malfaiteurs. Donc, après 24 heures de garde à vue, ils et elles sont sortis, du coup c'était mercredi soir, après aussi un rassemblement de soutien appelé par la GAL, le groupe antifasciste de Lyon et environ, entre Bah, y a
environ. Pardon,
environ, voilà. Pardon. Et du coup, voilà, ces 6 personnes ont quand même un contrôle judiciaire disproportionné qui va durer le temps qui est un procès. Et voilà. Donc la répression, elle n'est que à ses débuts. Et d'après les informations que la GAL a pu recueillir, ça serait la mairie qui ferait pression sur la police pour trouver des coupables. Merci GG. Donc du coup, ça c'est ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas que ça, c'est que du coup, pendant les perquisitions, la police elle a pris énormément de matériel. Et en fait, elle a annoncé après les perquisitions d'avoir trouvé de la propagande antifasciste chez les militants et militantes.
Antifasciste.
Bah oui, tout à fait. Mais ça, c'était un peu le gros, la grosse annonce de presse. On a trouvé de la propagande antifasciste, des vêtements soi-disant portés lors de l'action sont également évoqués par les flics parmi le matériel saisi. Alors, heureusement qu'il y a aussi des militants et militantes de la GAL qui nous donnent plus de précisions. Il y a un communiqué qui est assez, qui est très intéressant, que vous pouvez trouver sur leur Facebook, sur leur Twitter et bientôt sur Rébellion. Où ils expliquent un peu mieux ce qui s'est passé lors de ces perquisitions. En fait, les flics, ils ont pris énormément de matériel militant. Tous les tracts, les autocollants, les affiches, les badges, les cartes postales, le moindre support politique a été volé. Et on dit bien volé parce qu'effectivement, les flics, ils peuvent prendre du matériel qui, normalement, est soit mis sous scellé pour qu'il serve au procès, soit rendu au bout d'un moment. Alors qu'en fait, dans ce cas, il paraît que le procureur ait demandé à la police de détruire tout ce matériel. Donc on parle bien de vol. C'est plusieurs centaines d'euros de matos envolés qui, du coup, ils sont venus chercher pour les foutre à la poubelle. C'est comme si le droit de se réunir, de penser la politique, de faire des écrits, des images, d'en faire une contre-culture, était dénié et réprimé. Ils ont aussi, les flics ont aussi volé plein de livres pris au hasard dans les affaires des militants et militantes. Dans certains cas, des romans qui n'avaient rien à voir avec le mouvement ni avec l'antifascisme, pour les envoyer également à la destruction. Du coup, voilà, un peu comme il y a le droit de lire, ça, genre, en fait, ça n'a aucun sens. En plus que d'être illégal, sauf s'il y a un bout de loi qu'on ne connaît pas et qui dit qu'effectivement, les flics peuvent prendre tout ce qu'il y a chez des personnes en cours de perquisition et les détruire. Mais bon, ça, on n'est pas au courant si c'est le cas. Bref, voilà. En plus, les flics, ils ont bien fouillé tous les vêtements des personnes perquisitionnées. Tous les vêtements jugés intéressants, entre guillemets. Par exemple, s'il y avait marqué Antifa, par exemple, s'il y avait un symbole de point levé, par exemple, s'il y avait marqué soutien à la famille d'Adama, et voilà, également détruit. Du coup, ça montre bien la fragilité du pouvoir, la fragilité et le doute dans lequel nos dirigeants vivent et de leur façon dégueulasse de réprimer une pensée politique antifasciste en plus.
On peut parler là de police politique, quoi.
Oui, tout à fait. Et voilà, ça me donne une bonne image de ce que c'est Lyon aujourd'hui.
Et encore une fois, si la mairie est un peu à l'origine de ces perquisitions, ça montre aussi, elle qui a choisi de faire fermer la semaine dernière le local des identitaires, ça montre encore une fois qu'elle remet dos à dos fasciste et antifasciste comme tout à fait équivalent.
Ah bah oui, tout ce qui dérange.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Ce que je voulais dire, c'était tout ce qui est dans Gérard Collomb, parce que c'est pas exactement dans la même ligne de Gérard Collomb. Bien évidemment, nous, on adore les antifascistes. Big up à tous les copains et copines, et un gros soutien aux personnes inculpées.
Merci pour cette... On a eu peur.
Tout à fait, moi aussi.
Ça n'arrive donc peut-être pas toutes les semaines, mais il était fort instructif de lire Libération ce mercredi. Trois journalistes livrent un papier sur les moyens mis en place pour surveiller et punir les opposants et opposantes au projet Cigéo, vivant notamment autour du village de Bure dans la Meuse. Alors ce village et ce projet, on vous en parle souvent, c'est celui qui consiste à enfouir les déchets nucléaires les plus hautement radioactifs à quelques centaines de mètres dans le sous-sol de la Meuse et de la Haute-Marne. Des déchets qui restent hautement radioactifs pendant des millénaires, déchets qui ont déjà été produits en France et dans quelques pays européens, mais aussi et surtout ceux que l'on va continuer à produire ces prochaines décennies. C'est donc un projet qui valide et accompagne le choix du nucléaire pour l'avenir, de quoi évidemment s'y opposer farouchement. Alors, qu'est-ce que révèle Libération cette semaine ? Eh bien, les journalistes ont pu consulter le dossier d'instruction contre les militants anti-déchets nucléaires, une procédure titanesque employant les ressources les plus pointues de la lutte antiterroriste. Après un court silence, le procureur de Bar-le-Duc dans la Meuse, à qui Libération pose des questions, doit l'admettre. Non, jamais il n'a pris part à une enquête d'une telle envergure. Depuis l'été 2017, une instruction ouverte notamment pour association de malfaiteurs cible les opposants et opposants au centre industriel de stockage géologique, le fameux Cigéo. On découvre dans cette instruction, en tout cas les journalistes de Libération ont découvert dans cette instruction 10 000 pages que le mouvement dans son nom que dans ces 10 000 pages, le mouvement dans son ensemble est visé. L'objectif clairement affiché est de mettre en évidence la, je cite, « radicalisation d'une partie des opposants ayant des desseins criminels », je cite aussi, « et auteurs, selon les gendarmes, je cite encore, d'infractions graves n'ayant pour l'instant entraîné que des dégâts matériels ». Les investigations les plus instructives des enquêteurs s'enchaînent frénétiquement. Une cellule Bure à la gendarmerie est montée en coordination avec le parquet de Bar-le-Duc. Une dizaine de militaires travaillent sur le mouvement, la plupart à plein temps. Surveillance physique en planque, géolocalisation, balisage de véhicules, placement sur écoute, tentative de sonorisation d'une maison, expertise génétique, perquisition, exploitation de matériel informatique. Ces techniques spéciales d'enquête ont été étendues ou légalisées par la loi du 3 juin 2016, celle sur la criminalité organisée et le terroriste. Et rappelez-vous, vous fidèles auditrices et auditeurs du Canu Info, on était nombreuses à l'époque et nombreux à le dire, derrière la prétendue menace terroriste, il s'agissait surtout de légaliser des pratiques déjà utilisées par les services de police contre le militantisme politique. Ainsi, dans l'histoire qui nous intéresse ici, celle des militants contre le projet Cigéo, derrière la dite association de malfaiteurs, le parquet permet aux enquêteurs d'avoir recours à de nombreux moyens encadrés par cette fameuse loi. Angélique Huguin, opposante résolue à Cigéo, l'explique.
Bure, c'est un laboratoire répressif. On a affaire à la filière nucléaire, donc on a affaire à l'État. La justice utilise cette information judiciaire pour casser et museler le mouvement de contestation à Bure.
Merci Angélique. Alors on va voir en détail les méthodes qui ont été mises à l'œuvre dans cette investigation de la gendarmerie. D'abord, les écoutes, la géolocalisation, les balisages. Entre l'ouverture de l'information judiciaire fin juillet 2017 et la manifestation non déclarée du 15 août, les communications d'au moins 7 personnes sont interceptées. Les lignes collectives, c'est-à-dire utilisées par plusieurs personnes, sont visées en priorité. Dans la liste des écoutes, on décèle sans surprise les téléphones portables et le téléphone fixe de la Maison de la Résistance à Bure, que l'instruction désigne comme l'épicentre des mouvements contestataires du projet. Plusieurs militants logent en permanence dans cette bâtisse de pierre, achetée en 2004 par deux associations, au cœur du village de Bure donc, et qui fait l'objet de toutes les spéculations. Déterminé à en connaître les moindres rouages, le juge d'instruction, Kevin Le Fur, diligente une sonorisation du lieu, c'est-à-dire mettre des micros dans la Maison de la Résistance. Mais les gendarmes ne parviennent pas à installer les micros, occupés en continu, la maison étant occupée en continu. En revanche, ils sollicitent jusqu'à la caisse d'assurance maladie et les services fiscaux pour étayer les profils des différents résidents. Par leur recours massif aux écoutes, les gendarmes essaient de reconstituer l'organigramme des opposants et opposantes au projet d'enfouissement. Une ligne téléphonique attire particulièrement l'attention de la cellule d'enquête, celle de la Legal Team, c'est-à-dire les opposants qui s'occupent des questions juridiques du mouvement. Le jour d'une manifestation, le 15 août 2017, au cours de laquelle un militant sera gravement blessé au pied, on vous en avait là aussi parlé à ce micro, chaque appel émis ou reçu par le numéro de la Legal Team est consigné, et ce sur une durée de 7 heures. Petit extrait de ces appels en cours.
Appel de 18h et 28 secondes. X déclare que le cortège se replie enfin. Appel de 18h, 05 et 53 secondes. X déclare qu'ils redescendent et qu'il y a des blessés graves.
Et ça continue comme ça sur des pages et des pages. Les grandes oreilles des gendarmes vont aussi s'intéresser à plus d'une dizaine de militants, dont les téléphones personnels sont placés sur écoute à partir de septembre 2017. Pour certains, les interceptions cessent après quelques semaines. D'autres, en revanche, seront écoutés pendant près d'un an. La question est de savoir qui parle à qui utilise quel pseudonyme et lequel la plupart du temps. Les enquêteurs peinent à débusquer les malfaiteurs qu'ils traquent. Ainsi, 2000 communications décortiquées n'aboutissent qu'à 4 maigres retranscriptions. Sans parler du numéro d'une personne n'ayant rien à voir avec Bure, écoutée durant un mois pour rien. Mais l'exploitation des téléphones personnels ne se cantonne pas aux écoutes. Une dizaine de personnes ont été géolocalisées pendant plusieurs semaines, avec une fréquence de rafraîchissement de 10 minutes. Résultat de ces rutilantes investigations,
aucun élément intéressant pour l'enquête ou susceptible d'aider à la manifestation de la vérité.
Alors, autre tentative, celle de poser des balises GPS sous les véhicules de deux personnes intéressant manifestement beaucoup les enquêteurs. Mais là encore, les découvertes s'avèrent infructueuses. Deuxième point, les images produites lors des manifestations et les IMC catchers. Alors, les manifestations organisées par les opposants au projet CIGEO offrent aux gendarmes de nouveaux moments propices à la surveillance. Là encore, la mobilisation du 15 août 2017 à Bure va constituer l'un des nœuds de l'enquête. De très nombreux procès-verbaux retracent avec précision le trajet des militantes et militants lors de ces événements. Un hélicoptère est même diligenté, il suit et filme les opposantes et opposants depuis le ciel. En plus des effectifs mobilisés pour la gestion du maintien de l'ordre, des équipes d'enquête sont dépêchées sur place préventivement. Elles observent alors que les manifestants
dégradent du mobilier urbain et désolidarisent des panneaux de circulation, nous dit le dossier.
Mais les très nombreuses images captées par les gendarmes ne suffisent visiblement pas. Une réquisition est adressée à la rédaction en chef de France Télévisions, qui a fait un reportage le jour même de la manifestation. Les gendarmes souhaitent
récupérer les copies vidéo et photos du reportage et des rushs. Le secret professionnel ne peut être opposé, sauf motif légitime.
Ici, le secret professionnel, c'est celui du secret journalistique. Les gendarmes profitent également des différents rassemblements pour garnir leurs fichiers de militantes et militants avec d'éventuelles nouvelles lignes téléphoniques. Ainsi, des réquisitions sont envoyées aux opérateurs à la suite de la manifestation du 15 août pour récupérer la liste des portables qui ont borné sur les antennes des environs. Vous savez, quand vous passez quelque part avec votre téléphone portable, il borne sur l'antenne la plus proche.
L'opération est effectuée pour déterminer des réseaux de connaissances et procéder à l'identification des activistes présents sur les lieux.
En février 2018, plus récemment, le juge d'instruction Kevin Le Fur autorise les gendarmes à utiliser un appareillage encore plus intrusif, l'IMC Catchers. Cette valise espionne agit comme une antenne relais et intercepte les données de communication de tous les téléphones portables présents alentour. Cette technique a longtemps été utilisée illégalement par les services de renseignement et elle a été légalisée par la fameuse loi antiterroriste de juin 2016. L'IMC Catcher permet de cibler beaucoup plus précisément les militants, de remettre à jour la base de données lorsque ceux-ci ont changé de numéro de téléphone et surtout de les géolocaliser en temps réel. Ainsi, le 13 février 2018, les gendarmes procèdent à une première captation avec l'IMC Catcher aux abords du tribunal de Bar-le-Duc, où étaient jugés des militantes et militants. Et donc, il y avait un rassemblement avec évidemment leur soutien. Et on utilise donc cette technique pour prendre tous les numéros de téléphone alentour. Ils réutilisent la même technique le lendemain. Et les enquêteurs investissent Bure au petit matin, donc ce lendemain, pour
intercepter les données techniques des opposants au projet CIGEO, localisé à la maison de résistance, ainsi que ceux situés en lisière du bois Le Juc.
L'opération est répétée encore deux fois depuis. Troisième point, les perquisitions et les expertises qui sont là aussi menées par la gendarmerie et des services associés. La consigne est délivrée sans équivoque par le juge Le Fur. Il dit :
les enquêteurs peuvent procéder à toute audition, réquisition, perquisition, saisie et d'une manière générale à tout acte utile à la manifestation de la vérité, et ce, sur toute l'étendue du territoire national.
Alors c'est ferme. S'en suivent des dizaines de perquisitions déclenchées en trois séries, Maison de la Résistance, bien évidemment, mais aussi cabane dans la forêt, dans le Bois-le-Jus, ou aussi domicile personnel. D'innombrables lieux ont été ratissés. De ces actions découle évidemment la saisie de centaines de téléphones mobiles, ordinateurs, disques durs et clés USB, des supports numériques dont les arcanes vont être disséqués. D'après le décompte du pool d'avocats des militants, l'ensemble des avocats des militants, au moins 45 expertises techniques, informatiques et même ADN ont déjà été effectuées. Un mois après l'attaque de l'hôtel-restaurant, qui avait été attaqué donc par des militantes et militants anti-CIGEO à Bure, c'est un rapport d'expertise génétique qui est réalisé sur la bouteille ayant contenu des hydrocarbures, ainsi que sur 4 cailloux. Elle conclut que les données recueillies ne permettent pas d'identifier l'ADN ou de profil génétique. Même constat d'échec lors de l'analyse de traces retrouvées sur des bouteilles et un briquet à proximité de l'Écothèque en février 2017, là aussi un lieu mal nommé à Bure. Des actes vains, mais facturés, des dizaines de milliers d'euros selon les nombreux devis que Libération a pu lire. Enfin, pour terminer, les interrogatoires. En juin 2018, Kevin Le Fur estime que l'enquête qu'il pilote depuis plusieurs mois est suffisamment aboutie pour envisager les premières mises en examen. Dès lors, plusieurs militantes et militants sont placés en garde à vue, dont l'avocat Étienne Ambroselli. Souvent, la faiblesse des charges dont disposent les gendarmes, malgré leur investigation, transparaît de leurs questions. Du coup, plus que les infractions visées, c'est le mouvement politique et sa structuration qui se retrouvent sur le grill. Intrigués par le mode de vie collaboratif, les gendarmes se demandent, comme les militants, comment les militants font pour l'hygiène. Et oui, on vit à plusieurs, alors forcément on est sale, se disent les gendarmes. Ensuite, c'est l'ensemble des activités, même les plus anodines, qui sont passées au crible. Petit extrait.
Qui est chargé de la logistique concernant le matériel, le bois ? Comment vous nourrissez-vous ? Qu'est-ce que le Hibou Express ?
Un journal hebdomadaire qui n'est pas paru depuis un mois.
Et les associations Réseau Sortir du Nucléaire et Bure Zone Libre, propriétaires de la Maison de la Résistance, sont également au cœur des auditions. Autre extrait.
Qui en sont les dirigeants ? Que peuvent-ils dire sur ces structures ? Comment sont-elles financées ? Y a-t-il des tensions entre elles ?
Une militante historique qui appartient à Réseau Sortir du Nucléaire est aussi placée en garde à vue. Son positionnement par rapport aux militants les plus radicaux est questionné.
Est-ce que vous ne sentez pas une dérive inquiétante de votre lutte ? Pensez-vous que tout le monde est fiable dans votre lutte ?
Quant à l'avocat Étienne Ambroselli, qui défendait plusieurs militants poursuivis dans d'autres affaires, il doit principalement répondre de sa présence lors de la manifestation du 15 août 2017, où il était vêtu d'une sorte de tissu mauve, nous dit la gendarmerie.
Pouvez-vous nous dire quelle est la signification de ce tissu ou dans quel but il est porté ?
À l'issue des gardes à vue, les experts sont une nouvelle fois sollicités afin de permettre le fichage du profil génétique des protagonistes. Et lorsque le prélèvement de cellules buccales est refusé, c'est à partir de matériel biologique trouvé sur les vêtements des personnes interrogées que les biologistes sont invités à travailler. Donc ils piquent en gros le matériel qui a été laissé par inadvertance dans les cellules. En l'occurrence ici, un caleçon de couleur gris et un sous-vêtement avec protège slip. Voilà donc pour ce qui a été analysé de ce dossier par les journalistes de Libération. C'est fort inquiétant, mais en même temps, on pouvait s'en douter. Et puis, ce qui est un peu rassurant, c'est de voir qu'ils arrivent à pas grand-chose quand même en déployant des moyens considérables. C'est qu'ils sont peut-être pas super, super intelligents.
Comme quoi, l'argent ne fait pas tout. Mais alors, du coup, on vient quand même d'avoir de nouvelles extrêmement effrayantes entre les militants antifascistes à Lyon et leur répression, comme la répression à Bure. Mais tout ça s'accompagne d'une évolution de la législation qui est tout aussi inquiétante, et notamment celle autour de l'assignation à résidence. Deux amendements votés le 9 novembre ont été adoptés sans débat et en toute discrétion à l'Assemblée nationale. Ils alourdissent encore les capacités répressives de l'État via des mesures administratives, renforçant encore les prérogatives administratives du ministère de l'Intérieur, qui peut se placer de plus en plus hors du contrôle de la justice.
En effet, comme l'explique un article du journal pourtant largement inféodé à la politique gouvernementale Le Monde, je cite, « Le but de ces amendements est d'éloigner le juge des MICA, mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance », analyse l'avocat Bruno Vinet. Après avoir conseillé des personnes touchées par des assignations à résidence pendant l'état d'urgence, il poursuit avec ces fameuses mesures qui ont fait entrer dans le droit commun des dispositions exceptionnelles de police administrative avec la loi du 30 octobre 2017, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Et le contrôle des militants et des militantes et opposantes politiques aussi. On se souvient de l'usage intensif de cette mesure autour de la COP21 par exemple, puis pendant le mouvement contre la loi travail. Donc en vrai, les juges, déjà peu enclins à annuler ces mesures, ont dû être considérés comme encore trop contestataires, et mieux valait éliminer le risque qu'un juge refuse à l'État le droit de surveiller et d'assigner à résidence qui bon lui semble, sans contrôle aucun de la justice ni pouvoir de contestation. Pire encore, ces amendements rendent quasi impossible la possibilité de se faire représenter pour contester, explique le journal Le Monde. Par ailleurs, les amendements votés officialisent le fait que tribunaux administratifs et conseils d'État peuvent examiner les recours en absence de l'intéressé. La loi précisera en effet que le « sauf-conduit » permettant à l'assigné de se rendre au tribunal n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Or, par construction, s'il fait l'objet d'une telle assignation, c'est que la place Beauvau estime qu'il est une menace. Le problème devant le Conseil d'État est qu'un avocat qui ne fait pas partie de la caste des avocats du Conseil ne peut pas plaider si son client est absent. L'avocat au Conseil le peut, lui, mais sans rencontrer le client, cela risque d'être compliqué. On nous avait pourtant bien expliqué à l'école que la démocratie reposait sur la présence des contre-pouvoirs pouvant se contrebalancer les uns les autres. Il semble que cette fois, l'État ne s'embarrasse plus de faux-semblants et entend bien pouvoir assigner à résidence qui bon lui semble, une mesure bien dangereuse, en ces temps où tous les nostalgiques des gouvernements autoritaires du milieu du XXe siècle semblent se réveiller et revenir en grâce.
Appel au masse bal masqué contre le mur de la plaine, samedi 24 novembre, 16h, à l'hôtel de ville.
Dit mairie renversée. Déjà plus d'un mois que les camions de la Soleam, protégés par des lignes de CRS, ont débarqué sur la plus grande place de Marseille, la Plaine. Plus d'un mois, le 11 octobre dernier, que Gérard Cheneau, adjoint au maire et président de Soleam, et ses amis bétonneurs tentent d'en finir avec la contestation d'un quartier opposé à leur projet dit de requalification. Sans concertation, ce projet indigne, démesuré et ne répondant en rien aux priorités des habitants, maintes fois exprimé, n'a jamais eu d'autre objectif que d'accélérer la gentrification du quartier. C'est-à-dire effacer les plus pauvres et laisser place aux populations aisées en faisant exploser le prix du mètre carré, remplacer ses commerces à bas prix par de grandes enseignes et son marché populaire par des étals à touristes. Une véritable montée en gamme pour anéantir le vivant.
Gentrification partout, Soleam dégage. La mairie a tablé sur la lassitude des unes et des uns et la résignation des autres. Une stratégie d'abandon de la place et de l'usure des habitantes et des habitants. Elle a tant vanté les charmes du quartier exotique auprès des investisseurs et des touristes friqués que dans les maquettes des promoteurs, les quadras branchés de Marseille connectés et apaisés annonçaient déjà le monde radieux. Et puis, plus rien. La contestation a révélé dans toute son horreur le visage municipal, brutal, violent, autoritaire et méprisant. Plus d'un mois donc, de matraquage, d'arrestation, de procès, d'intimidation et une volonté unique, faire table rase, créer la sidération par la violence avec ses rangées de CRS mobilisées à chaque journée d'opération, empêcher tout retour en arrière par la coupe mortifère des 40 des 115 arbres de la place, la destruction des grilles et des espaces de vie, les blocs de béton et la fermeture complète des accès à la place, sans aucune information pour les habitants, les habitantes et les commerçants et les commerçantes.
Depuis un mois, pourtant, l'arrogance de l'élite politique marseillaise bute sur le quartier, son inventivité. La colère s'est ancrée, les palissades ont volé, d'autres ont brûlé. Le Mistral s'est mis à déplacer les blocs de béton, entre-temps recouverts de messages et de peintures aux couleurs du quartier. La créativité a repris ses droits. Libéré de ses grillages, le cœur de la place s'est converti en espace de discussion et d'assemblée permanente, avec toujours plus de nouveaux venus. Comme lors de la grande manifestation populaire du samedi 20 octobre. Réunissant plusieurs milliers de personnes, elle s'est conclue par la construction du Gourbi numéro 8, structure offerte par la ZAM de Notre-Dame-des-Landes et détruite sous haute protection policière quelques jours plus tard. D'anciens kiosques à sandwich ont été rouverts, un terrain de foot aménagé, les jardinières construites, des équipes de ménage auto-organisées, elles sillonnaient la place, redonnant au lieu une atmosphère populaire, vivante, festive, entremêlée. Là, ils ont détruit, le quartier a reconstruit, ne sachant plus que faire, les camions et outils de chantier ont même plié bagages un temps.
C'en était trop pour les bétonneurs et leurs élus. Lors d'une conférence de presse où le mensonge concurrençait le mépris, réduisant les opposants à des ados en mal d'aventure amoureuse, l'infâme Gérard Chesnaud annonçait l'édification d'un gigantesque mur pour sécuriser le chantier. Son chantier. Un demi-million d'euros ou presque, 2,5 mètres de haut et 1000 tonnes de béton. Un vrai mur de Berlin et presque un aveu de défaite devant l'impossibilité à poursuivre les travaux sans ce mur de la honte. Le Mistral a bien continué de souffler depuis. Des pans entiers du mur sont tombés et les actions continuent de ralentir un chantier de plus en plus inutile et coûteux. Mais la vie, les allées venues, les discussions sont désormais impossibles autour du mur et le quartier va mourir à petit feu.
La honte résonne d'autant plus amèrement devant la colère provoquée par l'effondrement des immeubles de Noailles, les morts, les bâtiments détruits, les centaines d'évacués, de déplacés et le mépris de la mairie comme les jeux qui s'accélèrent en haut lieu pour en finir avec cet autre quartier historique de Marseille. Le mur de la Plaine et les morts de Noailles, si différents, forment les deux facettes d'une même logique vorace et mortifère, menée par les mêmes rapaces. Façonner un centre-ville aseptisé, franchisé et nettoyé de ses pauvres, de ses immigrés, en édifiant des murs et en laissant les autres s'effondrer et tuer. L'effondrement n'a rien d'une négligence. Résultat d'une stratégie de pourrissement cynique et mûrement réfléchie, les morts de Noailles sont déjà ouvertement utilisés, au pied des décombres, pour dégager tout le secteur, comme l'a dit lui-même le maire Jean-Claude Gaudin. Voué à leur seul profit, à leur ville contre nos vies et à leurs murs contre nos quartiers, ces logiques ont assez duré. Plus que jamais, à la Plaine, ce chantier, c'est non.
Le mur de la Plaine doit tomber. Il tombera. Samedi 24 novembre, 16h, à l'hôtel de ville de Marseille.
100 papiers.
Migration.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestin.
Europe. Forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF.
No border.
Et on vous raconte encore une histoire de migrants et migrantes bloqués en mer, encore une histoire de résistance. Parce qu'environ 80 migrants et migrantes se trouvent actuellement sur un bateau commercial aux côtes de la Libye et refusent de descendre depuis désormais 6 jours. Partis de Libye à bord d'un rafio pneumatique, après avoir payé leur passage plusieurs centaines d'euros au minimum, ces personnes se sont retrouvées jeudi 8 ou vendredi 9 novembre à portée de vue de Malte, d'après leur témoignage. Après avoir constaté que plusieurs bateaux croisés à proximité sont arrêtés, le Nivine, un navire marchand qui venait livrer une cargaison de voitures en Libye, se serait approché au bateau des migrants. À la suite de quelques échanges, d'une tromperie ou d'une incompréhension, les migrants et migrantes ont cru que le navire se rendait en Italie et sont montés à bord, alors même que leur Zodiac n'était pas réellement en détresse. Si près du but, ils ont compris trop tard qu'ils repartaient en arrière. Ce faux espoir a été la raison de leur colère. Et une fois dans la rade de Misrata, du coup, sur les côtes de la Libye, la décision est prise. Du coup, ces dizaines de migrants et migrantes, certains blessés, certains malades, certains mineurs, refusent depuis 6 jours d'obéir aux forces de sécurité libyennes massées sur le port et s'accrochent à ce cargo qui bat pavillon panaméen. Il y en a certains qui sont quand même descendus depuis, 13 personnes qui étaient à bout et qui ne pouvaient plus supporter ces conditions extrêmement difficiles dans le bateau. Hier, jeudi 15 novembre, il y avait encore 80 hommes qui restaient à bord et qui déclaraient être prêts à mourir plutôt de ne pas mettre les pieds sur le territoire libyen où beaucoup d'entre eux avaient passé un an, voire deux, d'extrême souffrance. Cette histoire, à la fois emblématique des politiques européennes et presque banale, parce qu'on en a entendu plein d'histoires de migrants bloqués sur un bateau, on a quand même choisi de vous la raconter. Parce qu'elle nous permet de rappeler trois choses. D'abord, la raison pour laquelle aucun migrant ne devrait pas être contraint à débarquer en Libye. Parce qu'en fait, les migrants et migrantes qui se trouvent sur les bateaux savent très bien que tous, s'ils descendent en Libye, seront expédiés dans des centres de détention officiels du régime où les mauvais traitements, voire la torture, sont légion. Les histoires de viol, de travail forcé, de torture, de détention arbitraire, voilà ce que tous les migrants et migrantes ayant traversé la Libye ont en commun. L'Union européenne le sait, l'ONU le sait, tout le monde le sait désormais. Le deuxième point, c'est qu'on se fout de notre gueule parce que, en fait, une porte-parole de l'Union européenne qui se trouve en Libye actuellement disait à Mediapart « Nous suivons la situation de près. Nous espérons qu'une solution pourra être trouvée rapidement dans le respect du droit international et des droits de l'homme en tenant compte des préoccupations humanitaires. » Fin de la citation. C'est faux. Pour mémoire, l'Union européenne équipe les gardes-côtes libyens depuis plusieurs années et les incite à opérer ou coordonner toujours plus de sauvetage entre guillemets en Méditerranée, alors même que la Libye n'est pas un port sûr où débarquer des rescapés au regard du droit maritime international et selon l'avis même du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, et que certaines unités sont même soupçonnées de complicité avec des trafiquants. Même l'HCR, le Haut Commissariat des réfugiés de l'ONU, qui se dit être contraire à la détention de tous les demandeurs d'asile, attend un feu vert des autorités libyennes pour ouvrir un centre sous sa responsabilité de 1000 places environ où la situation des demandeurs et demandeuses d'asile pourrait être évaluée par les équipes du coup directement en Libye pour choisir ceux et celles qui pourraient partir en Europe parce qu'elles seraient éligibles au statut de réfugié. Le droit international et le droit d'asile, voilà de belles paroles dont on a du mal à voir le sens concret aujourd'hui. Un peu comme le mot fraternité sur les mairies françaises. Troisième point.
L'égalité aussi.
Oui, voilà. Liberté, on se fout de notre gueule. Troisième point, la politique européenne est responsable des morts en mer et de plus en plus. En fait, avec la raréfaction des navires d'ONG en Méditerranée centrale, certains immobilisés sous saisie judiciaire, d'autres privés de pavillon, et ben, on constate que les sauvetages en mer dépendent de plus en plus de navires commerciaux qui ne prennent pas toujours les migrants et qui ne tiennent pas en compte aussi des obligations de droit de l'homme et de la femme, de droit international. Et de ce fait, le taux de mortalité en mer, en Méditerranée, a augmenté fortement ces derniers mois. D'après des chiffres compilés pour un think tank italien, celui-ci aurait atteint plus de 21% en Méditerranée centrale en septembre, soit un mort pour 5 tentatives, 13 fois plus qu'il y a un an. C'est énorme. Devant cette situation... et devant tous ces articles qu'on voit depuis quelques mois et qui parlent de comment la liberté de circulation est impossible aujourd'hui en mer et pour arriver en Europe, le risque est de céder à la tentation de l'indifférence, de la distance, de dire « oulala, c'est triste, mais on n'y peut rien », de s'habituer à l'horreur que nos gouvernements produisent tous les jours. À l'heure où le Grand Lyon décide sournoisement que pour prétendre à un hébergement, même d'urgence, il faut d'abord avoir un titre de séjour et que les sans-papiers n'ont qu'à crever dans les rues. Nous, on a une autre proposition. Soyons en colère, soyons pleins, soyons solidaires et cassons tout.
Et cassons tout, parce que tous ces bateaux qui sont bloqués et toute cette externalisation aux frontières, c'est une logique d'État, c'est une logique européenne. Et on a lu sur Bastamag qu'il y a 1000 kilomètres de murs qui ont été érigés en Europe depuis la chute du fameux mur de Berlin, justement pour protéger les frontières des migrants. Alors c'est un rapport de l'ONG néerlandaise TNI qui relate ce fait. Et donc les États membres de l'Union européenne et de l'espace Schengen, surtout, ont construit 1000 kilomètres, j'y arrive pas, c'est trop horrible, 1000 kilomètres de murs depuis les années 90. Alors, ces murs, ça a été les murs entre l'Espagne et le Maroc, avec les enclaves de Ceuta et de Melilla. Et c'est surtout depuis 2010 qu'ils se sont développés. C'est des murs qu'il y a en Grèce, dans une frontière entre la Grèce et la Turquie, entre la Bulgarie et la Turquie aussi en 2013, entre la Hongrie et la Serbie en 2015, puis entre la Norvège et la Russie en 2016. En 2017, on comptait 13 murs en Europe. Il y a aussi un mur qui a été construit en Macédoine, qui n'est pas en Europe, mais qui sert à couper une route migratoire pour l'Union européenne. Cela fait 14 murs, du coup, qui ont été érigés.
Et ces murs, donc c'est des murs physiques qui visent à bloquer l'immigration, mais ce rapport aussi rappelle que c'est des murs plus insidieux qu'on voit moins que sont les murs maritimes. C'est ce qu'on racontait juste avant avec le fait de bloquer des navires, d'empêcher des gens de traverser la mer. C'est aussi le fait de développer cette horrible agence qui s'appelle Frontex et qui chasse les migrants en mer au lieu de les sauver. Depuis le début de l'année 2018, au moins 1600 personnes sont mortes ou ont disparu en essayant d'atteindre l'Europe, selon les derniers chiffres du Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU.
Et tu as tout à fait raison de rappeler tout ça. Une petite rectification, la Macédoine est une salade, mais est aussi un pays en Europe.
Excusez-moi.
Mais pas dans l'Union Européenne.
Ah oui, c'est ça.
C'est quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et oui, l'agenda rapidement, parce qu'on n'a jamais le temps. Demain, vous ne savez pas quoi faire, à 17h, il y a une pièce de théâtre qui... Ouais, d'accord, en fait, on a assez de temps.
Waouh, waouh, waouh.
Demain, à 17h, en fait, vous pouvez aller voir Une longue peine. C'est une pièce de théâtre mise en scène par Didier Ruiz et qui met en scène des témoignages d'anciens prisonniers qui ont fait des longues peines, d'où le nom de la pièce, et une personne compagne d'anciens prisonniers qui du coup a accompagné un prisonnier pendant plusieurs années. Et ces personnes racontent l'horreur et le non-sens de la prison. C'est un spectacle anticarcéral et qui parle à tout le monde, qu'on vous conseille vivement d'aller voir. C'est un peu cher par contre, c'est 20 euros. Mais voilà, c'est au théâtre Nouvelle Génération, 23 euros de Bourgogne, à Lyon, 9e, donc à Bèze. Et il y aura de la petite restauration sur place.
Et demain aussi, sinon, on peut aussi bien sûr aller à la journée de la critique des médias qui est organisée par Acrimed et qui se passera à la MJC du Vieux-Lyon entre 14h et 22h. Alors on y parlera de tout, on y parlera de l'histoire d'Acrimed, mais aussi il y aura tout un tas de temps d'ateliers comme avec une carte blanche au monde diplomatique, le sexisme dans les médias, l'audiovisuel public en danger, la presse sous l'œil de Loïc Faujour, je ne sais pas qui c'est, mais il doit être... plutôt Acrimed, donc plutôt critique des médias. Il y aura des tables rondes et il y aura même une pause apéritive et gustative, vous avez qu'à voir. C'est pas de la merde et ça se passe tout ça à la MJC du Vieux-Lyon demain.
Et bah moi j'ai un truc qui est un peu de la merde, c'est les punaises de Léo Crous. Alors du coup les gens ils sont pas contents, c'est la merde, de toute façon voilà, les logements sont dégueulasses, il n'y a pas que des punaises de lit, il y a aussi des cafards dans la cuisine. Et donc pour lutter contre tout ça, il y a une assemblée générale, cours centrale de Mermoz, mercredi 21 novembre à 20h.
Oui. Oh bah non, bah non, mais c'est parce que avant les punaises de lit, il y a un autre truc qui est pas cool. Et là, finalement, et bah c'est plus du coup encore cette histoire de famille à la rue. Mais en même temps, au-delà des familles, c'est les personnes en général. Mais là, on va parler surtout des familles parce que c'est le collectif Jamais sans toi qui organise, comme je l'ai dit, un rassemblement devant le quai aux gagneurs. Et ben à 18h, mardi 20 novembre.
Et alors demain. Le 17 novembre, c'est bien demain.
C'est
hein.
Le merdi, c'est le jardin.
Samedi 17 novembre, ouais, vous avez pas arrêté de sauter mon tour. Alors, à Terre des Livres. Demain, à Terre des Livres. En plus, je ne sais pas vraiment. Je n'ai pas trop lu avant. Alors, à 15h, il y a la présentation d'un bouquin qui s'appelle Écologie ou catastrophe, la vie de Murray Bookchin. Pardon, je crois. Murray Bookchin. Avec Pinar Selleck, on la connaît. Et Mimmo Pucciarelli, on le connaît aussi, ouais. Il est sympa.
Alors, il aime bien les cerises, je crois.
La rencontre sera suivie d'un pot convivial offert par Terre des Livres. C'est toujours bien là-bas, les petits pots. C'est aussi organisé par la revue Silence, on connaît. Hein. Et donc voilà, donc on pourra découvrir Murray Bookchin, peut-être que vous connaissez. Je répète, demain, samedi à 15h.
Mais ce soir, je crois qu'il y a à l'Amicale. Une soirée en soutien à la lutine, avec on peut acheter son calendrier et compagnie. Et sinon, il y a son agenda aussi, ouais. Bon, on peut faire ce qu'on veut. Et en même temps, à l'atelier des canulars, il y a une soirée un karaoké en soutien au collectif Sans S. Je ne sais pas ce que c'est que le collectif Sans S.
Et puis aussi, il faut. Ah,
Non, t'as peut-être un truc.
Bah moi, j'ai un truc super important, ouais, c'est parce que c'est vendredi prochain, mais c'est à Paris, du coup, on n'aura pas le temps de l'annoncer la semaine prochaine. En fait, c'est une marche contre les centres de rétention. Du coup, voilà, allez à Paris, c'est vendredi, c'est dans le 20e arrondissement et c'est contre les centres de rétention administratifs.
Ou aller à Marseille le lendemain, les samedi deux, les 24 les deux. Novembre ou les deux, pour mais aller péter le mur de la plaine.
Bonjour, je m'appelle Lily et j'ai 8 ans. Je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAB.
Radio Canu, la plus nulle des radios.
Salut les enfants, et vous pensez qu'on n'allait pas parler des gilets jaunes? Et bah si, on le fait sur la CAB, parce que ACAB ce soir ça veut dire apporte du carburant et allume des barrages, youpi.
Et tout de suite, bien entendu, c'est la fin du Canu Info, mais on se rassure parce qu'on peut écouter Noise Pollution.